نرحب بكم جميعا مستمعاتنا ومستمعينا ونرافقكم في هذا البث المباشر الذي يستمر بنا حتى حوالي الساعة الخامسة. كما وعدتكم معنا على الخط الآن دكتور عماد الحافظي للحديث في موضوع السرطان بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة داء السرطان، وسنتعرف على كثير من المعلومات التي تهمكم مستمعاتنا مستمعينا. دكتور الحافظي عماد، oncogériatrie, soins oncologiques de support, prise en charge de la douleur, soins palliatifs et médecin chef d'établissement président de l'Alliance marocaine de gériatrie et gérontologie. مساء النور دكتور واهلا وسهلا بك معنا في إذاعة الشرق.
مساء النور أستاذ ظهور، شكرا على الاستضافة وأهلا وسهلا بجميع المستمعين الكرام.
باسم كل المستمعات والمستمعين أشكرك دكتور عماد على تلبية دعوة البرنامج كلما احتجنا إليك رغم من انشغالاتك طبعا الكبيرة جدا، واليوم احنا بحاجة إليك وإلى معلوماتك بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة داء السرطان. Le cancer qui reste la première cause de mortalité dans le monde, دكتور عماد.
Effectivement, vous l'avez bien dit, ça reste la première cause de mortalité dans le monde. C'est en soi une véritable épidémie. Cette journée se veut une journée où on mobilise tous les efforts, citoyens, organisations institutionnelles, gouvernementales et autres, pour sensibiliser contre cette maladie qui représente un véritable fléau.
Comment peut-on définir un cancer, docteur Imad?
Très bonne question. Commençons par définir. Alors, un cancer, d'abord, il englobe, on va dire, c'est un groupe de maladies qui se caractérise par la multiplication de cellules. En fait, ces cellules, elles deviennent anormales et elles vont se propager un peu partout. Donc, ces cellules peuvent constituer une masse qu'on appelle tumeur, où elles peuvent aller envahir, on va dire, les organes de voisinage, comme on va dire les tissus voisins, en se détachant de ces tumeurs, voire même ces cellules, elles peuvent aller migrer via des vaisseaux sanguins ou lymphatiques pour former une autre tumeur, d'où le qu'on appelle les métastases. Donc, pour dire un cancer. On peut le diagnostiquer, mais le pronostic dépendra avant tout du stade du diagnostic, quoi. Donc c'est très important.
Docteur Imad Al-Hafidi, quels sont les types de cancers les plus connus?
Alors, les cancers, il y a des cancers fréquents, mais je préfère scinder cette réponse en disant quels sont les cancers les plus fréquents chez la femme et ceux qui sont les plus fréquents chez l'homme, parce que cela a induit des politiques de santé en matière de dépistage ou de programmes nationaux de dépistage. Alors chez la femme, les cancers les plus fréquents, ça reste sur le podium le cancer du sein, suivi du cancer colorectal. Le poumon, on a bien vu que les dernières années, les femmes ont rejoint l'homme sur certains types de cancers, notamment le cancer du poumon, parce que les facteurs de risque, on voit de plus en plus de femmes qui fument. Et en dernier, le cancer du col de l'utérus et le cancer du corps, du col utérin et du corps. Pour l'homme, le cancer de la prostate reste le cancer le plus fréquent, suivi du cancer du poumon. Et en dernier, le cancer, en troisième, on va dire, le cancer colorectal. Donc, il y a des cancers, on va dire, qu'on voit plus spécifiquement dans un sexe que dans un autre. Donc, c'est pour cela que les politiques de dépistage se sont souvent orientées vers ces types de cancers et vers les facteurs de risque qui génère ces cancers.
Docteur Imad Al-Hafidi, quelle est l'importance du dépistage précoce, soit chez l'homme ou la femme?
Alors, le dépistage précoce, il est important pourquoi? Parce qu'il faut savoir que déjà, 40% des cancers sont évitables. Plus tôt on dépiste cette maladie, plus tôt on arrivera à la guérir. Il faut savoir, contrairement à ce qu'on peut penser, d'ailleurs, cette journée, l'objectif de cette journée pour cette année 2021, c'est l'amélioration des connaissances générales chez la population sur le cancer et lutter contre les fausses idées. Donc, plus tôt on dépiste les cancers, plus rapidement on arrive à avoir une thérapeutique adaptée qui nous permettra une guérison. Il faut retenir que les cancers, ça se traite, et les cancers peuvent être aussi guéris de façon totale. Donc ça, c'est un message très important. Après, le dépistage, il permet aussi d'aller, on va dire, dépister, ou plutôt d'axer ce dépistage aussi sur les facteurs de risque. Les facteurs de risque, notamment les plus fréquents, qui restent parfois des causes directes de cancer. Je parle par exemple du tabac, premier facteur de risque, par exemple, qui implique 18% des cancers du poumon. Vous prenez l'alcool, les mauvaises habitudes alimentaires, ou plutôt une alimentation malsaine, avec tout ce qu'on voit en ce moment et tout ce qui relève de la malbouffe, de fast-food, manger trop gras, trop sucré, moins de fibres, moins de légumes, moins de fruits, nous expose de façon, on va dire sur la durée, inéluctable, aux certains cancers. Le surpoids et l'obésité, ça devient carrément un phénomène de société. Cela, c'est un facteur de risque de cancer. Le stress, facteur de risque de cancer. On voit très bien comment nos vies actuellement, on va dire, on vit à 100 à l'heure, pas de répit. Eh bien, le stress, c'est un facteur de risque. La sédentarité, quand on bouge moins, on vit aujourd'hui dans une société, on veut tout rapidement, maintenant et tout de suite, moins d'activité physique expose au risque de cancer. Et enfin, il y a aussi des facteurs environnementaux, l'exposition aux polluants, quand on parle de la pollution de l'atmosphère, et dans certaines professions de santé, quand on est exposé à certaines, on va dire, molécules, comme ceux qui travaillent, par exemple, le benzène, c'est un facteur de risque. Et j'oublie pas quand même, il reste aussi un facteur de risque génétique, que ce soit sur des formes familiales ou sporadiques. Quand ces facteurs de risque génétiques réunis avec des facteurs environnementaux, on peut développer un cancer.
Docteur Imad Al-Hafidi, on sait très bien que les sujets âgés ont une place très importante dans votre spécialité. Comment peut-on améliorer la prise en charge des cancers de façon générale et plus spécifiquement chez les sujets âgés?
En fait, vous posez une question très pertinente parce que, d'une part, moi je dis, et le cancer, c'est une maladie du grand âge. Je vais vous donner quelques chiffres et aux auditeurs, ils vont le comprendre. 2 cancers sur 3 surviennent chez les personnes âgées de plus de 65 ans. L'âge moyen des cancers, c'est 66 ans. C'est la première cause de mortalité entre 65 ans et 70 ans. Donc, pourquoi l'âge est un facteur de risque? On sait pertinemment que le corps humain est en régénération permanente. Et cela expose ce corps à des agressions, on va dire, que subissent les cellules. Du coup, les mécanismes de réparation de cellules sont altérés. Et du coup, on est 2 fois plus exposé à développer les cancers avec un âge avancé. Mais malheureusement, ce qu'on remarque, c'est que les programmes nationaux des dépistages, puisqu'on est sur une journée mondiale des cancers, quand ils commencent à cibler les dépistages, ils s'arrêtent souvent à une population que moi je considère en tant que gériatre, jeune. Vous prenez le cancer du côlon rectal, les politiques de dépistage, c'est souvent de 50 à 74 ans. Vous prenez le cancer du col de l'utérus, ça va souvent de 25 à 65 ans. Vous prenez certains cancers et on voit très bien qu'on s'arrête à un moment donné à un âge, alors qu'on voit avec cette transition démographique que nos concitoyens, ils vivent de plus en plus longtemps, et du coup, c'est plus on avance dans l'âge, plus on est exposé à développer des cancers. Donc c'est une population qui nécessite quand même un accès aux soins, et plutôt un accès aux soins sans qu'il y ait des inégalités, parce qu'on sait que ces cancers-là, certains cancers, peuvent être évités, peuvent être traités, et surtout, ce qui nous intéresse, nous, en tant que gériatres, on défend toujours la qualité de vie de nos patients. On peut traiter, quel que soit l'âge du patient, d'un cancer. Et ce concept-là, il a fallu quand même qu'il y ait un développement de certaines, on va dire, disciplines, pour ne pas dire spécialité, comme la gériatrie ou comme l'oncogériatrie, pour dire que, effectivement, pour prendre en charge ces gens âgées, ces personnes âgées, et qu'ils soient dans un parcours de soins adapté, il faut qu'il y ait une concertation, plutôt un travail en multidisciplinarité, ou je préfère le mot interdisciplinarité, entre les oncologues, les radiothérapeutes, le médecin généraliste. D'ailleurs, certaines sociétés, il n'y a même pas de notion du médecin généraliste ou le médecin de famille, qui, à mon sens, reste le noyau, le fédérateur de tous ces, on va dire, avec tous ses collègues, pour proposer une thérapeutique personnalisée qui permettra de proposer ou une chirurgie, ou une radiothérapie, ou une chimiothérapie, ou une thérapie ciblée, ou une immunothérapie. La science a tellement évolué, les thérapeutiques ont tellement évolué, encore faut-il épargner nos seniors, que ce soit que ces seniors soient dans ce parcours de soins pour leur donner une chance d'être pris en charge correctement. Moi, quand je donne des exemples en disant, en fait, je peux avoir des personnes âgées de plus de 94 ans avec un vieillissement harmonieux qui peuvent avoir une chimiothérapie, ben, on nous dit, ben, c'est pas possible. Ben, effectivement, si c'est possible, et on peut adapter une thérapeutique adaptée, ça peut être même une chimiothérapie orale, ça peut être autre thérapeutique. Notre but, c'est améliorer la qualité de vie. À savoir que quand on ne traite pas ces patients-là, ils vont avoir toutes les souffrances du monde. Quand on commence à avoir de la douleur, des thérapeutiques, on va dire des symptômes non contrôlés, on rentre dans une étape où on ne contrôle pas la maladie. Et là, ce qui doit s'inviter dans ces prises en charge thérapeutiques associées, ça s'appelle les soins de support et les soins palliatifs, qui doivent faire partie de chaque instant de prise en charge. Quand on s'occupe de la douleur, quand on s'occupe du soutien psychologique, quand on s'occupe des problématiques sociales, c'est ce qui permet aux gens de guérir. On ne peut pas traiter une maladie sans prendre un patient dans sa globalité. Et c'est comme ça qu'on arrive ensemble à soigner correctement nos patients. On dit toujours que l'union fait la force. Et quand ça va au sens de nos patients, on est très content et on répond à tout ce qui relève de l'éthique, de la déontologie et la vocation pour laquelle on a choisi ce métier, c'est soigner avant tout les patients et s'occuper aussi de leur entourage familial.
Merci beaucoup, Dr Imad Al-Hafidi, pour toutes ces explications et merci d'être avec nous malgré la charge du travail que vous avez en cette journée spéciale. En tout cas, merci encore une fois au nom de tous les auditeurs de Radio Rouen et à la prochaine, Inch'Allah.
À la prochaine. Merci à vous, Madame Zohor. Merci à toute l'équipe. Au revoir.
Tahiyati. Ma'a salama. Ma'a salama.